Durant les premières années de sa vie parisienne, Octave, sa sacoche en bandoulière, déambula dans les rues de la capitale, avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. Postier lui semblait être le plus beau des métiers et Paris, la plus belle des villes. Il fut ébloui par le pavé luisant, conquis par le désordre du boulevard, emporté par les éclaboussures de boue, par le fracas des omnibus et des chevaux de fiacre, tout s'incrustait dans sa meuble cervelle. Odeur mêlée des cuirs des attelages, cernes des visages fermés, bajoues colorées de cire, mains crispées sur les billets de banque ou les pommeaux de canne. Le rôle d'un postier, aimait-il à dire, est non seulement de porter les nouvelles, mais aussi de vérifier l'ordonnancement des maisons, de confirmer le tracé des rues, d'être dépositaire des beautés de la ville. Un matin, cependant, en traversant le parvis de Notre-Dame, il découvrit les démolitions qui entaillaient la capitale, chantier de Rivoli, déblais du Trocadéro, tronçons de Saint-Michel et de Saint-Germain. Il fut bouleversé par le spectacle des ouvriers creusois, bretelant le plâtre, jonglant de la truelle et de la taloche, gâchant à pleine main, montant l'auge. C'était l'armée du préfet de la Seine, l'armée des grands travaux, l'armée du baron Haussmann qui avait investi la ville jusqu'à marquer sa chair même. Le travail d'Octave devenait impossible. De plus en plus souvent, il devait renoncer à distribuer son courrier, incapable de retrouver sous les décombres les rues auxquelles il était destiné. Et il pouvait alors rester des heures, furieux et minuscule. Ses lettres orphelines offertes au balai incessant des tourbillons de poussière et de plâtre, maudissant le baron. Ce n'était que le soir venu, dans sa chambre, sous les combles, qu'il se calmait, en disposant sur son bureau le courrier qu'il n'avait pu donner. À la lueur de la chandelle, il le classait par rue, par arrondissement, selon les adresses qu'il portait et qui n'existaient plus. N'était-ce pas là le plus grand crime d'Haussmann, ces lettres qui n'arriveraient pas, que personne n'ouvrirait, qui resteraient suspendues dans le temps, incapables d'aller au bout de leur destin? Et à force de les soupeser, de les caresser, de les réchauffer dans le creux de ses mains, à force d'interroger leur format, leur couleur, les caractéristiques de leur cachet et de leur timbre, à force de les porter à la lumière de sa chandelle pour mieux en distinguer les traits et les nervures, Octave comprit qu'il y avait là un appel, une tâche à accomplir. Il fallait qu'il les aide à retrouver la paix de l'âme en leur donnant un sens. Il alla au plus facile, vers les lettres qui le faisaient rêver, celles qui portaient la trace d'autres terres. Marque mystérieuse de ville étrangère, écriture secrète, mots lestés par le poids des voyages, promesses manuscrites de royaumes à conquérir. Il sélectionna un colis et trois lettres. Le colis était adressé à Mademoiselle Désirée Caravage, rue des Trois Couronnes, disparue lors du percement de l'avenue des Gobelins, 1869. Il était très léger, de papier bleu foncé, timbre de 80 centimes, rose carminée, oblitération CEM, expédition du Mexique, caché à date du bureau de Veracruz. La première lettre portait « Monsieur et Madame Deleuze demeurant rue des Grès, disparu sous les travaux de percement de la rue Cujas, 1864-1865. » Lettre de papier beige, légèrement renflée, comme si l'on y avait glissé des pelures d'oignons ou des rognures d'ongles. Oblitération où se lit 5040, le chiffre du bureau militaire d'Alger. La seconde lettre était adressée au docteur Rodolphe Cantevin, chemin des prêtres, supprimé lors de l'ouverture en 1866 de l'avenue de Montsouris. Papier jaune pâle, deux timbres de 20 centimes bleu azuré, oblitération 5080 du bureau d'Alexandrie. La troisième portait Madame Verdot, deux rues du Pan-Saint-André, écriture belle, délicate. La plume n'a fait qu'effleurer le papier. Encre de Chine. Timbre à 40 centimes orange. On a dessiné la moustache de Napoléon III.